prêt pour un nouvel épisode? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre qui est déjà en précommande et qui sortira officiellement le 24 novembre. Sous la direction d'Olivier, à 7 mains, on s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous laisse écouter nos échanges avec un superbe invité et je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans le deuxième épisode de la semaine du podcast Devenir Triathlète. Mon compère pour animer cet épisode est toujours à mes côtés, à savoir Olivier De Scooter, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier.
Salut Armano.
Et nous avons toujours notre invité qui nous a été conseillé par Monsieur Holderbach, à savoir Lionel Lestrade. Salut Lionel.
Salut Armano. Salut Olivier.
On a passé en revue un petit peu ton historique de sportif hier. Tu nous as glissé tout doucement que tu avais fait des études de kiné et puis d'ostéo et que maintenant tu ne te consacres que à ton métier d'ostéo. J'aimerais revenir là-dessus justement. Qu'est-ce que c'est que d'être kiné? Qu'est-ce que c'est que d'être ostéo? Quelles sont les différences? Et puis qu'est-ce que ça t'apporte toi dans ta pratique du triathlon?
Pour moi, les deux métiers sont vraiment plus une continuité. C'est pas deux entités à part. Donc moi j'ai commencé par mes études de kiné, j'ai exercé le métier et au bout d'un moment je suis allé chercher un petit peu un petit plus. Souvent je mets un peu la comparaison comme on passe notre permis de conduire, on est capable de conduire à peu près toutes les voitures sur le marché normalement, mais on n'est pas forcément capable de conduire une Formule 1. Pour conduire une Formule 1, on va aller chercher d'autres outils, on va aller chercher d'autres compétences. Ben moi, c'est un petit peu ce que j'ai fait avec le métier de kiné et d'ostéo. Le métier de kiné me permettait d'avoir des bases très solides, de pouvoir traiter un petit peu toutes les pathologies, toutes les demandes, mais j'avais besoin d'avoir une boîte à outils peut-être un petit peu plus riche et de pouvoir avoir une vision peut-être plus globale de la personne en entité, c'est-à-dire de voir le côté mécanique, mais peut-être le côté également chimique, le côté émotionnel, enfin voir vraiment une approche beaucoup plus globaliste, si on peut appeler ça, mettre ce terme-là.
Plus holistique.
Ou plus holistique, voilà, je voulais pas employer ce terme, mais voilà, de la personne. Et c'est ça que je suis vraiment allé chercher dans mes études d'ostéo, d'aller chercher des outils supplémentaires et une vision plus globale du patient. Voilà.
Tu traites exclusivement des sportifs ou
Non, je traite ça va du bébé de un jour à la personne master plus. Forcément
qui a déjà beaucoup changé de catégorie d'âge, celle-là, c'est ça?
C'est ça, tout à fait. après forcément
donc, quand tu parlais des Ferrari, c'était pas juste les triathlètes.
Non, c'était vraiment d'avoir
le corps humain.
D'avoir une boîte à outils encore plus large pour pouvoir répondre au maximum de demandes. Après, il est clair que dans ma patientèle, j'ai une orientation sport, puisque comme pour tout, j'ai toujours tendance à dire qu'on a une patientèle qui nous ressemble. Donc, suivant ce que l'on va chercher, suivant ce que l'on va rayonner, entre guillemets, ben, on attire un petit peu ce que l'on fait. Donc, moi, étant connu un petit peu dans le secteur au niveau du triathlon ou des sports d'endurance, bah, j'ai beaucoup de runners, j'ai beaucoup de trailers, de triathlètes, de cyclistes qui viennent me voir. Donc, j'ai un peu ce côté-là. Et je pense que les gens apprécient parce que, étant moi-même pratiquant, je sais quand ils me disent « Bah oui, l'autre jour, j'ai fait une séance de fartlek où j'ai fait mon 30-30, j'ai eu mal pendant ma séance, qu'est-ce que je pourrais faire comme prochaine séance ?» Je sais de quoi ils parlent, ce que ça peut donner en termes de recrutement, comment planifier une séance peut-être moins traumatisante sur la région ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'ils ont une écoute, enfin, ils retrouvent une écoute qui tombe pas dans le vide. Ou quand ils me disent « Ah, je prépare un Ironman », bah tout de suite, souvent ça effraie certaines personnes du corps médical. Non, oh là là, mais c'est n'importe quoi. Faut arrêter. Vous allez vous détruire le dos, vous allez vous détruire les genoux, etc. Donc, moi, j'ai pas cette vision et cette approche, et j'ai un discours souvent qui, je pense, les rassure et permet de poser un peu plus les choses. Enfin, en tout cas, c'est dans ce sens-là que j'œuvre.
Tu as dit que tu étais plus ostéo que kiné aujourd'hui.
Oui.
Du coup, ça veut dire que tu fais peut-être plus de manipulation et moins de rééducation, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai arrêté la prise en charge médicale dans le sens où je ne prends plus de gens qui viennent sur ordonnance. J'ai voulu me détacher un petit peu de ce système là où les gens viennent avec une ordonnance et sont remboursés avec une codification très précise des actes et compagnie. Moi, je me suis détaché de cette profession, un, pour retrouver un petit peu plus de liberté dans ce que je veux faire au niveau de ma prise en charge, et du coup d'avoir des créneaux, faut dire également qu'il y a une réalité économique, c'est-à-dire de pouvoir prendre les gens sur des laps de temps beaucoup plus longs que sur une séance de kiné. Il faut dire qu'une séance de kiné est facturée entre 18 et 20 euros. Donc, quelque part, vous passez une demi-heure avec la personne et pour s'en sortir, bah, il faut quand même faire de nombreuses heures de consultation pour enchaîner les consultations. Donc ça, ça commençait vraiment à me peser et j'avais envie vraiment de poser les choses, de prendre mon temps, d'être un peu plus à l'écoute, de traiter les gens sur des créneaux un peu plus longs. Donc moi, les gens, je les prends entre 3 quarts d'heure et 1 heure. Mais du coup, ça me permet de poser les choses et que les gens, je trouve, s'investissent plus également dans leurs soins. Parce que même si maintenant les mutuelles remboursent énormément les soins d'ostéo, il y a plus ce côté, bah, de toute façon, c'est la sécu qui paye, c'est remboursé. Pour certaines personnes, il y a moins d'investissement dans leur prise en charge parce que, entre guillemets, cette notion en France du soin gratuit. Il est loin d'être gratuit, il est remboursé. Il faut vraiment faire la différence avec ça. C'est que on cotise pour avoir accès à ces soins remboursés. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce versant. Donc en effet, je fais beaucoup moins de rééducation. C'est plutôt du soin ponctuel. J'essaye de conseiller beaucoup les gens plus sur la réathlétisation ou sur de la préparation physique en parallèle, puisque pour moi le soin que je vais faire est qu'un début du maillon. Si les gens ne se prennent pas en charge derrière, ou voir, je les adresse des fois à des kinés pour continuer le travail, moi je suis juste une goutte d'eau dans un verre, hein. ça va pas suffire à résoudre tous les problèmes.
Tu mentionnais le terme réathlétisation.
Oui.
C'est pas facile, hein.
C'est pas facile. En fait, quelle est la différence avec la rééducation? C'est juste que c'est le retour au sport, c'est ça?
Ouais. Pour moi, la réathlétisation, c'est vraiment, on prend une personne qui pratiquait une activité physique, quelle que soit son activité et quel que soit son niveau, qui a eu une interruption, une opération, une maladie, qui est tombée malgré elle dans la sédentarité. Enfin, vraiment, il y a une période où le corps s'est désentraîné. Elle est plus capable de reproduire le sport qu'elle faisait précédemment, surtout en termes de développement de qualité physique. Et donc, le but, c'est de la remettre dans la direction de son sport et de permettre à son corps à remettre en place des phénomènes d'adaptation pour qu'elle puisse repratiquer son sport. Donc là, c'est vraiment réathlétisation.
C'est un sujet qui me parle puisque, comme tu peux le voir, j'ai le bras en écharpe, la clavicule qui a été brisée en petits morceaux il y a pas très longtemps. Donc j'imagine que je fais partie du type de patient que tu traites.
C'est exactement ça. Voilà.
C'est super intéressant ce que tu dis et ça me permet de réagir. Je voudrais juste ton avis sur le sujet, parce qu'on parle de réathlétisation plutôt que de rééducation dans le cadre de tes activités actuelles. J'en déduis que il semble plus néfaste pour le corps humain d'avoir arrêté après avoir fait une activité physique que d'avoir toujours été sédentaire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Après, tout va dépendre de l'arrêt, la longueur de cette période d'arrêt. Alors, on sait de toute façon que la sédentarité crée quand même beaucoup de dégâts sur le corps. Notre corps, à la base, il a été créé pour le mouvement. Et on voit très bien, d'autant plus là, ça a été très marqué ces derniers mois avec cette période de Covid, où les gens se sont retrouvés en télétravail. Et moi, je vois mes consultations depuis 2 ans. J'aurais pu ouvrir une consultation spéciale télétravail. Je n'avais plus que ça en motif de consultation, où les gens ne se sont jamais autant plaints de douleurs rachidiennes, de douleurs au niveau du cou, de douleurs au niveau du dos. Pour 2 raisons. 1, ils se sont retrouvés en télétravail sur des postes à la maison qui n'étaient pas forcément bien adaptés. Mais surtout, ils sont devenus sédentaires plus. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même plus les déplacements quotidien pour aller au travail, le midi pour aller à la cafette, pour aller au resto, pour rentrer le soir. Donc ils faisaient 3 pas, ils étaient dans leur bureau, ils faisaient 3 pas, ils étaient dans leur cantine du midi, etc. Et là, ça a explosé. Donc l'effet de la sédentarité pour le corps, il est quand même très délétère. Moins le corps bouge, plus il s'enraidit, plus il devient douloureux et on parle pas après des effets sur éventuellement le cholestérol, le diabète, la prise de poids, etc. Donc la sédentarité pour moi est vraiment le fléau actuel de notre société qu'il faudrait vraiment mettre des gros moyens pour faire bouger les gens, ne serait-ce que les faire marcher un peu plus.
Je suis complètement aligné avec toi et même en termes de si on regarde le taux de mortalité, c'est vraiment impressionnant. Hein. Je sais plus.
C'est ça.
Je crois que c'est plus de 20% ou 30% en plus de mortalité chez les personnes sédentaires. Donc
c'est évident, ça,
sujet de société, quoi.
C'est mon quotidien. Je me bats au quotidien quand les gens ils arrivent au cabinet en me disant j'ai mal au dos et je comprends pas pourquoi. Et tout de suite j'essaye de leur mettre le doigt dessus en disant mais depuis combien d'années vous avez pas bougé votre corps, quoi. On leur demande pas de faire un Ironman, hein, très loin de là, mais au quotidien d'avoir un minimum d'activité, d'avoir une activité physique au moins deux fois par semaine, même diverses et variées, mais que le corps bouge. On voit bien que dès que le corps est en mouvement, le corps va mieux parce qu'à la base il a été conçu pour ça.
Parce que aller de la maison au parking, aller faire les courses en voiture et revenir du parking à la maison en demandant aux enfants de débarrasser les courses, c'est pas de l'activité physique.
Bah c'est presque mieux que ce qui se passe ces dernières semaines, quoi, où là les gens ne faisaient même plus ça puisqu'ils se faisaient livrer les courses, ils allaient même plus dans le parking, ils allaient voilà, donc ça s'est recalmé un petit peu, mais là les deux dernières années c'était exponentiel, quoi.
Bon, du coup, on est rentré dans le sujet de la prévention des blessures. On l'a bien compris, faire du sport, c'est déjà une bonne chose.
Complètement.
Est-ce que, alors après, bon, même en faisant du sport, et d'ailleurs, justement, en faisant beaucoup de sport, on est aussi quand même à risque de blessures. Quels seraient tes conseils? C'est quoi tes grands conseils pour justement la prévention des blessures?
Je fais toujours ce constat, c'est-à-dire, j'essaye de dire où est-ce qu'on est actuellement et où est-ce qu'on veut aller. Et c'est par rapport à cette planification que qu'on va pouvoir mettre des choses en place qui vont prévenir plus ou moins les blessures. Si on est sportif, alors c'est pas du tout péjoratif, mais c'est ce que j'appelle le sportif du dimanche, c'est d'avoir une activité la plus régulière possible, d'éviter d'aller courir une fois le dimanche et puis de rien faire pendant 3 semaines et de recommencer à courir 3 semaines après. Ou le commentaire que j'ai régulièrement, c'est je cours tous les dimanches, par contre je ne comprends pas, je progresse pas, je stagne et compagnie, parce que ça manque de stimulation. Vaut mieux courir entre guillemets 3 fois 20 minutes dans sa semaine que une seule fois une heure par semaine le dimanche, parce que le corps a besoin plutôt de stimulation très régulière, puisque ça lui permet de mettre des phénomènes d'adaptation pour se renforcer et progresser et d'éviter qu'il se désentraîne aussitôt après. Donc plus on va stimuler son corps régulièrement avec éventuellement des activités différentes, ça peut être un coup je vais faire un peu de vélo, un coup je vais nager, un coup je vais faire de la marche, un coup je vais faire du pilates, un coup je vais faire, enfin qu'importe, mais le tout pour le sportif occasionnel, récréatif, il faut qu'il stimule son corps au moins 2 à 3 fois par semaine. Là, il aura vraiment une qualité de vie qui sera optimisée.
Bon, mettons qu'on cible le triathlète, qu'il soit débutant, amateur ou plus, qu'est-ce qu'on peut faire?
Lui, par contre, ça va être par rapport à ses objectifs. C'est comme pour tout, c'est de monter en charge vraiment dans la progressivité et laisser le temps au corps de s'adapter. Le corps, on a un corps qui est une fabuleuse machine qui est capable de faire énormément de choses, de s'adapter à énormément de contraintes. La seule chose qu'il ne sait pas faire, c'est s'adapter rapidement à de nouvelles contraintes, ce qu'on appelle un peu le stress mécanique. C'est-à-dire si d'un seul coup, on lui met trop de stress mécanique, trop vite, trop fort, c'est quasiment sûr que c'est la blessure.
Tu veux dire qu'on peut pas passer d'un triathlon S le dimanche à un Ironman 15 jours après?
Tu peux essayer. Je suis pas sûr que ça fonctionne.
Ou à la limite, ça marchera une fois, mais pas deux.
Ouais, et encore, je suis même sûr que classiquement, c'est les gens qui se mettent dans des prépas marathons, c'est ce que j'ai régulièrement, qui couraient 1 à 2 fois par semaine et d'un seul coup, qui passent à 4-5 séances par semaine. Bah, ça dure guère plus d'un mois, quoi. Parce que c'est comme pour tout, c'est trop vite, trop fort. Et ça, c'est aussi un petit peu la société dans laquelle on vit, c'est que les gens grillent beaucoup trop d'étapes. On le voit, donc on le voyait il y a quelques années dans la course à pied, des gens qui faisaient des 5 ou du 10 bornes et d'un seul coup passaient sur marathon. Là, c'est devenu exponentiel depuis 10 ans, c'est dans le trail. On n'est plus un trailer si on fait pas de l'ultra. Donc les gens maintenant, ils commencent la course à pied et tout de suite ils s'alignent sur des 120, 130, 140 km en trail. Moi ça, waouh, je suis estomaqué quand j'entends ça. Et en triathlon, je trouve qu'il y a peut-être un petit peu moins, mais il y a beaucoup de gens qui tout de suite veulent faire des Ironman avant de passer, de faire des halfs, des choses comme ça, avant d'habituer le corps. Donc pour moi, en termes de prévention de blessures dans nos sports, c'est d'être progressif, d'être à l'écoute de son corps et de monter vraiment progressivement dans les années et pas vouloir sauter des étapes, quoi.
Alors quand tu dis évoluer progressivement, on parle souvent d'une augmentation de charge de 10% par semaine maximum. Est-ce que tu valides ce point-là? Et si oui, quand on parle de 10%, c'est en termes de volume d'entraînement, en termes de durée, en termes de kilométrage, en termes de...
Ouais, alors je suis pas forcément un adepte de tout quantifier, parce que après on peut, il faut jouer à la fois sur le volume, mais il faut jouer également sur l'intensité. Et c'est souvent le combo qui fonctionne pas, c'est-à-dire que si on augmente un l'intensité, deux le volume, ça fait trop. Donc il faut, alors on a cette chance ou cette malchance, je sais pas, dans le triathlon d'avoir trois sports qui nous permettent aussi de quantifier cette intensité. C'est-à-dire qu'on peut se permettre, si on fait une intensité à pied, de faire peut-être plus de la récup la même semaine sur le vélo ou en natation. Ce qui fait que ce stress mécanique, cette intensité va pouvoir être lissée un peu sur les différents sports. Donc, mais de toute façon, c'est à la fois le retour entre chaque séance, la pénibilité de la séance qui va être à prendre en considération. Et puis, en effet, dans la planification, je pense que c'est là aussi l'intérêt quand on va commencer à vouloir faire des objectifs, à se faire encadrer par aussi des professionnels de l'entraînement qui vont être capables de codifier et de placer des charges, des phases de surcharge, des phases de récupération, des phases de régénération, pour pas être tout le temps au taquet, parce que le corps va progresser justement pendant ces phases de régénération. Et c'est souvent cette phase-là qui sont un petit peu négligées.
Tu parles d'écouter son corps, et je pense que c'est quelque chose qu'on entend effectivement souvent, et bon, et le côté progressivité aussi, je crois que c'est quelque chose qui revient beaucoup au niveau de la clinique du coureur. On a eu Blaise Dubois il y a quelques semaines qui passait sur le podcast. Qu'est-ce que ça veut dire pour un athlète, je sais pas, mettons un triathlète débutant, ça veut dire quoi écouter son corps pour lui? Parce que c'est pas forcément facile. Enfin, je veux dire, quand on a beaucoup d'expérience, voilà, t'as 20 ans d'expérience dans le triathlon, a priori, ton corps, tu le connais, tu sais l'écouter. Par contre, quand tu t'es un peu novice, on va dire, sur la discipline, ça peut être difficile pour certaines personnes. Ça veut dire quoi écouter son corps?
Pour moi, ça va être un petit peu le contenu de la séance. Cette pénibilité du style, il y a 45 minutes de footing en endurance fondamentale, donc c'est quelque chose qui doit être complètement en aisance. Et la personne, finalement, elle va trouver la séance dure. Donc il y a quelque chose qui est pas en adéquation, par exemple. Donc ça, ça peut être un premier signe de dire, bah attention, est-ce qu'il y a peut-être de la fatigue actuellement qui s'est accumulée, puisque cette séance était programmée comme facile et finalement le vécu n'était pas en phase. Après, ça peut être tous des signes qui sont à côté, un sommeil qui devient perturbé, une irritabilité dans le quotidien, une modification de l'appétit. Tout ça, ce sont des signes qui doivent clignoter, qui doivent allumer des voyants en disant bah tiens, c'est bizarre par rapport à d'habitude, j'ai pas le même comportement ou voilà. Donc ça, c'est tous les à côté, les effets collatéraux d'une séance qui peuvent entraîner, qui peuvent tomber dans le surentraînement. Et ça, c'est des signes quand on connaît pas forcément le fonctionnement de son corps, puisque quand on commence à enchaîner des séances, il y a forcément de la fatigue musculaire, il y a forcément des tensions qui viennent s'installer à droite à gauche, qui sont aussi des phénomènes naturels et qui font progresser le corps. Donc faut pas se dire bah tiens, j'ai un peu de courbature, donc il faut que j'arrête de m'entraîner pendant une semaine. Là, l'adaptation va être compliquée. Mais je pense que c'est d'être à l'écoute un petit peu des à côté. Si madame commence à dire oh là, tu es là en ce moment, va courir parce que tu commences à être casse-pied au quotidien, ben faut peut-être le prendre aussi différemment, en disant oula, faut peut-être que je me repose un peu plus ou que je fasse sauter une séance parce que mon corps a besoin de se reposer, parce que si dans mon fonctionnement habituel j'ai un comportement qui a changé, c'est pas pour rien. Donc ça, pour moi, ça peut être des signes, surtout quand on débute ce sport qui sont à prendre en considération.
Je pense que c'est ça qui est difficile justement aussi pour le, bah, les sportifs débutants entre guillemets, c'est de discerner en fait quelles sont les bonnes douleurs des mauvaises douleurs finalement. On parle beaucoup de variabilité cardiaque pour justement mesurer ou quantifier, on va dire,
la fatigue, le
bien-être, la fatigue et l'état un peu général de
l'état de forme.
Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes d'utiliser qui justement pourrait permettre d'objectiver les choses?
Non, je m'en suis jamais servi. Et c'est vrai que chez du débutant, non, je l'ai jamais non plus mis en place, parce qu'il faut déjà un minimum de technologie pour pouvoir mesurer cette variabilité cardiaque.
Après, la technologie, on l'a. Enfin, je veux dire, c'est une ceinture cardiaque,
tout à fait. Complètement. Mais non, je me suis jamais servi de cette donnée-là. J'ai plus donné les notions un petit peu de comportement ou de sensation extérieure.
Ok, moi j'en profite pour rebondir. S'il y en a que ça intéresse, ce fameux HRC ou la variabilité cardiaque, on avait fait un gros épisode avec Greg sur le podcast de Nakan, avec un spécialiste, avec un cardiologue. On en avait beaucoup parlé pendant une heure et demie. Donc voilà, s'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Je pense qu'on a fait un bon tour là aujourd'hui sur la partie justement médicale, paramédicale, prévention des blessures. Peut-être pouvoir se donner rendez-vous demain pour reparler à nouveau de toi, Lionel, et puis de tes performances, de ton palmarès sur triathlon.
Oula.
Ok, avec plaisir. T'as l'air quand même moins motivé là. Non, c'est parce que tu es très modeste, c'est ça?
Non, mais quand quelques épisodes avant, vous interviewez Frédéric Van Lierde. Excuse-moi, mais là, on ne joue plus du tout dans la même.
Mais justement, on donne la parole à tous les triathlètes du début, bravo, milieu et fin de peloton.
Merci.
Et puis, je suis sûr qu'il y aura quelques petites anecdotes croustillantes sur tes plus ou moins 18 Ironman passés. bon, on revient là-dessus demain.
Tout à fait.
Allez, à demain.
Parfait. À demain.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, je vous rappelle que vous pouvez venir sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous et nos invités. Et n'oubliez pas de nous aider à progresser dans les classements et dans notre exercice de podcast en laissant un commentaire sur Apple Podcast. À demain pour en savoir encore plus sur notre invité de la semaine.